Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode d'Un autre café. Je m'appelle Alex Sereno et aujourd'hui, on se transporte à Griffintown. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le tout premier camion de rue de Montréal, le Grumman 78. Philippe s'entretient avec la barista la plus connue de Montréal, Barista Ellen. Et j'ai un invité tout spécial pour qui le café et la musique font partie de son quotidien et qui vient tout juste de déménager à Griffintown. Mais je vous en dis pas plus long. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec mon acolyte, mon chroniqueur résident, Philippe Massé, amoureux de culture de Montréal. Comment ça va, Phil?
Ça va très bien, toi?
Ça va vraiment bien parce qu'aujourd'hui, on parle entre autres d'un quartier que j'affectionne tout particulièrement, justement parce que je suis très gourmand et que j'adore les petits restos de la rue Notre-Dame. J'adore les cafés, j'adore la boulangerie, la bête à pain. Bref, tu auras compris que je suis un peu gourmand, là.
Absolument.
Mais toi, t'adores pas juste la bouffe, t'adores la culture?
Absolument. Puis là, pour le deuxième épisode, c'était absolument impossible de passer outre Griffintown, qui est un quartier en émergence à Montréal. Comme on le sait, c'est un café qui est... C'est un quartier qui est extrêmement embourgeoisé en ce moment. Ouais. C'est un quartier qui était à la base industriel. C'est un ancien quartier ouvrier du sud-ouest de Montréal. Le quartier est situé entre la rue Notre-Dame, l'autoroute Bonaventure et le boulevard Georges-Vanier. C'est aussi au nord du canal de la Chine, puis très peu de gens le savent, Alex, mais le quartier de Griffintown, il est à la fois dans l'arrondissement du sud-ouest, puis à la fois dans celui de la Chine.
Oui, c'est un peu difficile à définir où ça commence et où ça termine, Griffintown.
Absolument. Absolument, les gens, ils semblent avoir une version très, très différente de ce qu'est Griffintown, mais bon, moi, je me suis basé sur Google Maps, alors à ce moment-là, je dois avoir raison. Ce qu'on aime de Griffintown notamment, c'est que c'est une offre alimentaire plus que complète. Avec les tours à condos de luxe qui commencent à se bâtir, écoute, les restaurants ont décidé de suivre, puis on parle de peut-être les plus grands restaurants de la ville sont là. On parle du foie gras, et non pas foie gras, le vin papillon, le restaurant, le grinder, on a la bête à pain que tu mentionnais, des cafés comme le Différence, qui est un peu à la bordure aussi, qui est un ancien employé du Névé qui a décidé de se partir lui-même son café. On a aussi... Allo Vélo, qui est à la fois un café et un bike shop. C'est un nouveau concept, ça, qu'on voit beaucoup à Montréal, des bike shops qui sont aussi des cafés. Ça fonctionne très, très bien. On aime beaucoup. En bordure du canal à Chine, c'est sûr qu'on peut aller faire des pique-niques près des écluses. C'est vraiment génial. Fait qu'on note vraiment que ce quartier... premièrement, ouvrier a décidé de s'embourgeoiser avec la construction de tours à condos, comme si les gens se rappropriaient ce quartier-là, puis que, comme on connaît la gentrification à Montréal, ce que ça fait, ben, les restaurants ont décidé de suivre, mais on déteste pas l'idée, ça fonctionne très, très bien.
Absolument. Si, bon, c'est sûr, tu as nommé tous ces restos-là que j'affectionne tout particulièrement. T'as oublié le Sinji? Si vous aimez le sushi, ça, c'est vraiment une place qui est pas mal intéressante. Mais si j'avais une question à te poser qui est ton coup de cœur...
Bon, je te dirais le Kitchen parce que moi qui ne suis pas du tout végétarien, j'aime de temps en temps me forcer à l'être, fait que j'aime beaucoup ça, puis j'aime beaucoup où c'est situé. Quand tu arrives au Kitchen, je me suis entretenu avec la barista, comme tu disais au début, quand tu arrives au Kitchen, tu te dis « Hey, qui vient ici? » C'est au milieu de nulle part, on dirait toutes des usines autour, mais dans le... Ben non, en fait. Griffintown, c'est un quartier qui est un peu déguisé. On a l'impression que c'est juste des usines, c'est juste des industries, mais en fait, tout ça cache genre des gens qui y habitent, puis des familles... les jeunes professionnels, tu sais, en tout cas, j'aime beaucoup ça.
Fait que là, tu viens de déménager, fait que peut-être l'année prochaine?
On verra, ouais, peut-être. On peut pas toutes les faire.
Toujours aussi pertinent, merci beaucoup, Phil. On va aller en musique. Je vous dis pas c'est qui notre prochain invité, c'est vraiment une belle surprise, mais je vous laisse un indice, fait que la toune qui s'en vient, c'est vraiment un indice pour vous mettre en appétit, et après la pause, ben, je vous présente mon invité spécial. Sylvain Cossette. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va se faire bien.
Drôle quand même, un album instrumental de Sylvain Cossette. Hein?
C'est super bon.
Merci. Merci.
Sérieux? Ben justement, qu'est-ce qui t'a inspiré un album instrumental?
Ben écoute, je suis chez nous dans ma sabbatique, puis j'avais le goût de faire de la musique quand même, puis j'ai commencé à récolter toutes les mélodies que j'avais dans un tiroir depuis longtemps. Je me suis dit, bon, il y en a qui vont mourir là. Puis je dis, sinon, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai décidé de faire un album instrumental avec la mélodie ou des voix qui servent un peu de tapis vocal ouais. plutôt que de mélodique. Je me suis imaginé que j'avais un café et que j'étais témoin des gens qui se croisaient dans le café. Donc, à partir du matin où on ouvre les portes, puis que les gens d'affaires qui viennent chercher leur café, qui sont pressés. Après ça, vers 10 heures, les quatre octogénaires ouais, qui ouais. sont là, qui jouent aux dames, oui, là, puis oui. qui prennent leur café en même temps. Après ça, ben ça, cette musique-là que vous avez entendue, pause, c'est vraiment la fille qui sert le café là-bas, qui prend une pause, puis qui pense à ce travail-là qu'elle fait, qu'elle rencontre des gens, ses aspirations et tout ça. Donc, je me suis mis vraiment dans la tête des gens qui se croisent dans un café.
C'est tellement cool. Ouais. Le concept est vrai. Ben, le concept, pour ceux qui ne le savent pas encore, est très unique, mais il est vraiment au reflet de l'une de tes passions. On le sait, tu es un auteur-compositeur émérite, mais tu as une passion pour le café.
Ouais.
Je ne sais pas si tout le monde le sait. Moi, je le sais parce qu'on se connaît un petit peu. Mais c'est vraiment, excusez l'anglicisme, next level ton amour avec le café. Là.
Je comprends toujours pas pourquoi j'ai comme capoté sur le café tout à coup. On dirait que c'est quelque chose qui fait que j'accomplisse dans ma vie, là, que je sois capable de faire un café presque parfait pour moi. C'est après un voyage en Italie, voyage très banal où je m'en allais en Italie.
En touriste,
comme tout le monde. Et on m'a servi un café différent de ce que je buvais au Québec. À l'époque, ça fait quand même un bon bout de temps. Ça doit faire une bonne quinzaine d'années. Ouais, la mode du café n'était pas encore partie. Puis tout le décorum qui est alentour du service du café là-bas, l'attention qu'on met, l'amour qu'on met dans la fabrication de ton café qu'on t'apporte, puis qu'on est tellement fiers de te le montrer, ton beau cappuccino.
Tout à fait.
Là, j'ai dit, OK, c'est possible que moi, je fasse ça chez nous. Je suis revenu au Québec, j'ai commencé à acheter des machines, des petites machines espresso, un petit moulin à lame, tout ça, tu sais, j'ai fait... Puis, à un moment donné, je me suis dit, écoute, j'ai beau essayer des machines, des cafés différents, j'arrive jamais à ce que je veux. Complètement, parce que c'est du essai-erreur, hein,
c'est
sûr.
Oui, tout à fait.
Jusqu'à temps qu'un de mes amis me dise, Sylvain, savais-tu que tu pouvais torréfier ton café? Et là, j'ai pogné le next level.
Parce que torréfier, là, c'est pas si facile que ça. Non. D'autant plus que torréfier des petits lots, ça prend un certain type d'équipement.
Ouais.
Puis c'est pas une machine à popcorn, on s'entend là. Fait que j'imagine que tu as essayé plusieurs types de machines.
Ouais, j'ai brûlé plusieurs machines.
Oui.
Les premières que j'ai achetées, c'est drôle parce que nos systèmes électriques ne sont pas tous égaux quand même. T'sais, des fois, tu as des fluctuations dans l'électricité. Ce qui faisait que le moteur de ma petite machine, des fois, j'avais, exemple, 325 degrés, je retombais à 280, je remontais à 400, c'était jamais pareil. Jusqu'à temps que je trouve vraiment une machine qui s'appelle Hot Top USA, puis qui se ressemble. Écoute, c'est pas loin système d'une vraie machine. Mais là, à partir de là, j'ai compris qu'avant, je pesais sur automatique, mais là, il fallait que je travaille puis que j'empêche le café de cuire trop vite, le perdre, et qu'il brûle ou qu'il sorte pas assez cuit et tout ça. Donc, j'ai commencé à ressembler à Walter White c'est quoi dans la série? Breaking Bad dans ma cuisine avec mes papiers, avec le crayon puis les essais. Là, j'en ai beaucoup perdu des grains.
Mais justement, où tu t'approvisionnes? Parce que du grain vert, tu peux très difficilement acheter ça en petits lots. Là.
Non, mais j'ai des pocheurs.
Ah oui?
Des pocheurs de grains de café. J'ai la brûlerie Mondor à Saint-Hyacinthe, Martine Saint-Pierre, qui est la propriétaire là-bas. Chaque fois que j'ai besoin de grains, je l'appelle avant. Je viens juste de recevoir du Mexicain, du Guatemalais, tout ça. Oui. Donc, j'arrive là, j'en essaie des petites quantités. Des fois, je fais des mélanges, mais je suis pas mal old school. Moi, j'aime les cafés d'origine.
Oui.
Je trippe sur le café du Mexique présentement. Cameroun, qui est mon café préféré dans la vie. J'aime les cafés qui sont quand même avec des goûts de noisettes, amandes.
Des profils de goût qu'on reconnaît souvent. Hein?
Ouais. Donc, c'est ce que j'aime. Écoute, j'ai travaillé très, très, très fort. Ça fait quand même une dizaine d'années que je torréfie. puis c'est très artisanal. Là. C'est, oh oui. J'ai l'impression que c'est comme si je te présentais un pot de confiture fait avec mes fraises de jardin chez nous que j'avais mis plein d'amour. Ben, quand je donne un sac de café à quelqu'un, c'est ça que je donne. C'est de l'artisanat. Là.
C'est tellement cool. Puis il faut préciser que oui, tu torréfies ton propre café, mais tu as aussi tout l'équipement en aval pour bien l'extraire. Là. C'est équipé de The Machine.
The Machine. On est les deux, les passionnés de Rocket. Rocket R58 qui est... Écoute, je l'adore. Je me couche le soir en pensant que le lendemain matin, je vais aller faire un café, puis je vais l'avoir à chaîne dans ma cuisine le matin. Tu sais, c'est sûr que la bonne machine, le bon moulin, la bonne pression, le bon temper, tu sais, c'est tellement d'affaires. C'est comme jouer au golf, finalement.
Absolument.
Le golf, là, tu peux pas juste frapper sa balle, tu sais, c'est les mains, les bras, la tête et tout ça. Puis, il y a des gens qui me demandent, pour faire un bon café, est-ce qu'on a besoin d'une machine à 4 000$? Non, mais ça aide beaucoup.
Clairement.
Puis, c'est des pompes commerciales, donc c'est toujours égal. Ton café fluctue pas trop. Donc, puis j'ai un petit appartamento aussi que j'ai acheté la semaine passée. Écoute, je suis vraiment un maniaque. Je pense que je suis officiellement un maniaque.
Clairement, là, je dois t'avouer, mais tu as aussi un bon moulin.
Hein? Oui, beau moulin aussi, Rocket aussi. Ah, je l'adore aussi. C'est des doses que j'ai calculées moi-même pour mes portefeuilles qui sont... J'aime beaucoup le bottomless aussi, quand je vais me faire un 3-shot avec mon bottomless ou mon 2-shot. C'est ça, c'est important, hein, la mouture. Hein, je dis à tout le monde, la mouture, quand tu prends ton café entre tes doigts, il faut que ça te tâche un peu les doigts. Donc, c'est un peu comme du sucre en poudre. Hein,
puis,
ça m'insulte un peu d'ailleurs quand je vais. Je pense que je t'en ai parlé la semaine passée. Quand je vais dans ces fameux cafés qui devraient connaître toute la patente pour extraire un café. Et là que je vois le café qui colle super rapidement, puis c'est presque un thé qu'on me sert. Là, ouais. Donc
c'est très critique.
Je suis très critique.
Fait que là, justement, parlons-en. Tu viens d'emménager à Griffintown tout dernièrement. Tu as quitté la rive sud pour venir t'installer au centre-ville.
Oui, dans le royaume du restaurant et du café. Ouais.
Est-ce que tu as visité des cafés?
J'ai essayé des cafés, oui.
Ah oui.
Oui, la semaine passée, pendant que ma machine était en train de se faire nettoyer chez vous, je suis allé chercher des cafés. Écoute, je suis obligé de te dire que les notions, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent barista présentement. Tu sais, pour moi, on va se faire un macchiato.
Oui.
Tout le monde sait qu'un... Pas tout le monde, mais on sait qu'un macchiato, tu sais, moitié-moitié, tu te fais un petit shot avec un petit peu de lait. Ben si je te demande un grand macchiato, donc tu vas mettre grand de café et grand de lait. Donc, maintenant, on fait juste rajouter du lait quand on veut un grand café. C'est ces notions-là que je trouve un peu spéciales, qui me déçoivent des fois, ou l'extraction, ou même la torréfaction. Moi, je ne suis pas un fan de torréfaction légère comme les cafés troisième vague. Moi, je suis pas mal old school. J'aime le café italien. J'aime la torréfaction. J'aime le goût de la torréfaction.
Absolument.
Je pense que je suis un peu à l'envers du courant présentement. Ouais. Je l'assume. Mais je suis souvent déçu quand je vais goûter un café. Pourtant, les gens sont là, ils le font avec cœur, mais je pense des fois, tu coûtes temper de plus.
Tu vois, c'est difficile de vraiment commencer à avoir une passion pour le café parce qu'on devient très critique.
Ouais, ouais.
Puis, veux pas, cette industrie-là, elle est très émergente encore.
Ouais.
On voit des cafés pousser à toutes les semaines.
Ouais.
Fait que veux pas, ça va se régulariser au fil du temps. Ça prend de la formation, mais c'est toujours difficile pour quelqu'un qui a une passion aussi pointilleuse que la tienne que d'aller après ça chercher des cafés. Mais sois patient, ton quartier, il va...
Non, je suis très patient. Puis honnêtement, je suis allé me chercher un matin, je suis allé me chercher un café au lait pour ma blonde et tout. T'sais, juste tu reviens chez vous, ça goûte juste le lait. Tu dis, OK, attends une minute, là, y avait-tu du café dans l'affaire?
Sors la Rocket.
Mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches YouTube. Puis j'ai travaillé fort. Puis je suis conscient que dans des restaurants, les baristas, ils passent, puis ils partent, ils reviennent, puis ou si tu n'as pas le temps tout le temps de passer le temps à comprendre l'extraction. Mais maintenant, tu as des machines qui sont automatiques.
Oui.
Puis tu as le fameux tableau où on te montre c'est quoi un flat white, puis un macchiato et un cappuccino. Donc à partir de là,
l'information est disponible.
Ouais, ouais.
Bon, moi, j'ai la question qui tue pour un artiste comme toi qui fait de la tournée. Là, tu viens de lancer ta tournée Élise.
Oui, qui commence en septembre. Là.
C'est ça.
Ouais.
Bon, qu'est-ce qu'on fait pour quand on est un amateur comme toi puis on part aux quatre coins de la province? Qu'est-ce qu'on fait en matière de... Est-ce qu'on traîne la R58?
Non, avant, je traînais un petit Nespresso que je déteste. je l'avoue, là, je déteste ce café. Là, je ne suis pas capable.
Tu pars de loin. Là.
Ouais, mais je comprends les gens qui ont ça dans leur maison. Tu le comprends très bien, mais pour moi, là, c'est comme manger des légumes en canne ou manger une bonne carotte que tu tiens de cueillir. Il y a des super... Tu sais, en région, un peu partout au Québec, tu as des bons cafés, puis il y en a vraiment que c'est super impressionnant. J'aime pas les cafés de grande chaîne qui commencent par Stark, qui finit par Buck. moi, j'ai plus... Bon, faut-tu le couper, ça?
non, c'est assumé.
C'est
assumé.
Ça. Mais mais on découvre des super de bons cafés partout. Tu t'en vas en Abitibi, au Saguenay. Il y a vraiment des endroits. Absolument. Mais des fois...
Oui.
J'ai tellement peur d'être déçu ou je suis tellement déçu par un café que je vais payer 8$ que je me prends un café filtre.
Ouais.
Puis je me dis, ça va être... C'est mon compromis, je me prends un café filtre. Je sais que ça va goûter ce que ça va goûter.
Ouais.
Je sais que ça va... Bon, ça ne m'impressionnera pas, mais ça va faire la job. Plus que le fameux cappuccino à 8$ qui est là avec du café qui est horrifié depuis 3 ans puis qui goûte la cendre, de l'impression qu'il y a une cigarette qui est dans le fond. J'ai plus de misère. Je pense que je suis très dur là, en le disant, mais des fois, je trouve qu'on sort un peu n'importe quoi.
Faisons abstraction de café maintenant. Ta tournée commence en septembre.
Ouais.
Tu vas te promener aux quatre coins de la province.
Oh oui.
j'imagine que tu es vraiment booké solide.
Ben écoute, j'ai pas fait un show encore, puis il y a 20 000 billets de vendus. puis j'ai des supplémentaires qui rentrent à toutes les semaines. Puis mon agent qui m'appelle, OK, on a un nouveau show. Donc le show que je pensais qui était pour durer peut-être 3-4 mois, là, va peut-être durer 2 ans et plus. Il y a beaucoup de shows privés que je fais pour des grosses corporations aussi, les festivals d'été l'année prochaine. Mais tu vois, la première est le 6 septembre au Casino de Montréal. Je fais 3 soirs, les 6, 7, 8. Puis je fais un show spécial symphonique à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco, avec l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Donc, c'est des jeunes, avec le chef d'orchestre Sébastien Lépine, là-bas. Puis imagine un show 80s symphonique. Là. Ça va être un gros moment. Puis l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, c'est tellement beau. C'est magique comme endroit. Ça ressemble un peu au Hollywood Bowl à Los Angeles. Oui. Mais le Casino 6, 7, 8 aussi, ça va être vraiment le fun. Ça va être le début de la tournée. Puis moi, je fais le premier soir que je fais un show.
Pour de vrai?
Moi, je travaille toujours avec la hache sur le bord, la guillotine, là, tu sais. Donc, ça va être le fun.
C'est vraiment le fun. Ouais. Ben, écoute, on va te souhaiter une super tournée.
Merci.
J'imagine que tu étais en forme, là.
Oui, ça va bien commencer à refaire du vélo tranquillement. Oui, la vie va être très, très bonne pour moi.
C'est vraiment le fun. Ben, merci beaucoup, Sylvain
Cossette. Merci à toi.
C'était vraiment un plaisir de jaser café.
Puis quand tu viendras à Griffintown, là, dans un de tes restaurants, là, tu m'appelleras. Si on a prendre un café chez nous, tu pourras me critiquer mon café.
Ça va me faire plaisir.
All right.
On s'en va à une pause musicale et au retour, on poursuit avec une entrevue que Philippe a fait avec la barista de Montréal, barista Hélène. Un gros merci à notre invité, Sylvain Cossette, qui vient tout juste de nous quitter. C'est toujours très intéressant de parler avec un passionné de café et bien entendu de musique. Parlons de passion de café. Philippe, tu es allé rencontrer la barista du Griffintown, la barista du Kitchen. Moi, je l'appelle barista Hélène. T'es allé la rencontrer sur place, justement, faire une entrevue.
Absolument, je suis allé la rencontrer au Kitchen. Qui de mieux pour présenter la scène café de Griffintown que barista Hélène, en fait, qui fait de la consultation pour l'ouverture de café. C'est une spécialiste en café, donc elle va donner les recettes, elle va guider un peu le ton. Et puis, elle vit dans le coin et en plus travaille au Kitchen. Alors, je trouvais que c'était vraiment à propos d'aller la rencontrer sur place pour qu'elle nous parle un peu de son quartier. Alors, on écoute ça. Alors, je suis en direct du Kitchen à Griffintown avec Hélène, barista Hélène. Bonjour, Hélène, comment ça va?
Bonjour, ça va bien et toi?
Ça va très bien, merci. Fait qu'aujourd'hui, je suis venu te parler dans le fond parce que toi, tu travailles au Kitchen, t'es gérante là-bas et consultante en service de café. Est-ce que tu pourrais me parler un peu du quartier de Griffintown autour de toi en ce moment?
Oui, ben le quartier de Griffintown, c'est sûr que dans les années qui ont passé, il y a 5 années, je dirais, et plus, qu'il y a plein d'édifices qui sont changés. Il y a plein de cafés qui ont rentré, des restaurants, des programmes spécifiques pour changer le quartier un peu. Il y a plein de condos qui sont en train d'être construits. Et ça fait qu'il y a plein de personnes différentes. C'est un mélange de jeunes professionnels, de familles, de français, anglais, multiculturels. Et oui, c'est ça.
C'est cool. Puis on en parlait un peu avant l'entrevue. Tu me disais que Griffintown, c'était difficile pour toi à définir exactement où ça commençait, où ça terminait. Mais parce que moi, je voulais te demander, en fait, c'est quoi? As-tu des hotspots dans le quartier?
Oui, ben si je pense à Griffintown, parce qu'ils sont vraiment petits. Il y a le Griffintown qui est petit, après ça change, c'est Little Burgundy. C'est quoi en français, Little Burgundy?
Petite Bourgogne,
c'est ça. Saint-Henri, il y a Pointe-Saint-Charles. Alors, je dirais, si coup de cœur dans Griffintown, mon premier était le Nora Gray, le restaurant Nora Gray qui est sur Saint-Jacques. C'est juste de la bonne bouffe, le service est toujours bon, c'est toujours des ingrédients frais et c'est des personnes qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils font. Il vient d'ouvrir un restaurant aussi à Saint-Henri qui s'appelle Elena et la même chose là, c'est vraiment bon.
Vraiment cool. Puis toi, tu travailles au kitchen, en fait. Peux-tu me parler un peu de ce que vous faites au kitchen?
Alors, le kitchen, cette location, ça fait 2 ans qu'on est là. Ils sont des traiteurs principalement, alors avant cette location. Parce que la location sur William, tu peux rentrer prendre un café, mais tu peux aussi prendre des bols qu'on vend qui sont sans gluten végétalien. Mais la location avant, c'était juste des traiteurs. Tu pouvais pas rentrer dedans pour prendre un café, manger quelque chose. Alors, on a les traiteurs en arrière qui sont toujours en train de faire de la production. On a le café en avant qui vend leurs produits. Et on a le café qu'on utilise, c'est barista. C'est un style italien. Et c'est ça, c'est vraiment un... On a le studio de yoga à côté. On a plein de choses différentes qui arrivent. Alors, ça devient occupé à des temps qui sont pas... C'est pas juste le matin, juste le lunch. Et c'est des personnes différentes qui rentrent. C'est comme un endroit où tu peux venir prendre un petit pause, même si tu travailles, même si tu veux amener ton laptop, tu peux faire ça aussi. Mais c'est vraiment un endroit où je veux que les personnes se sentent à l'aise, tu sais.
Mais en plus, moi, ce que je remarque premièrement à propos du kitchen, c'est que c'est vraiment autour très, très industriel. C'est difficile à croire qu'il y a des gens qui viennent. À quoi ça ressemble ta clientèle? C'est qui vit ici?
C'est un mélange de plein de... Il y a des familles, il y a des jeunes professionnels. Il va y avoir des personnes qui sont là, ça fait longtemps. C'est un peu de tout. Comme il y a des personnes qui me demandent si c'est plus français, anglais, je trouve que c'est... Moi, je dirais que c'est 50% pour les deux. Et c'est ça, on a le studio de yoga. Il y a un édifice juste à côté qui a le studio de yoga Moksha. Il y a le Escape Games. Il y a du Pilates. Il y a le Spa Cloud. Alors, il y a plein de personnes de là qui viennent. Qui fait que c'est aussi, ça va bien avec ça parce qu'on est végétalien et sans gluten aussi.
Mais vraiment cool. Ben, je te remercie, Hélène. Puis là-dessus, on va aller prendre un café.
Yes, on va prendre un café, c'est sûr.
Merci. Alors, Alex, j'étais avec Hélène Papapanos au kitchen pour jaser du quartier.
C'est vraiment intéressant. Faut préciser, c'est une consultante en matière de café. Donc, les gens qui ouvrent un coffee shop peuvent faire appel à ses services justement pour l'aider. Pour
Absolument. Si quelqu'un a besoin de recettes, de suggestions, d'idées, parce qu'elle a des idées très, très originales aussi, vous pouvez consulter Barista Hélène et puis elle va pouvoir vous guider à travers la suite.
Si vous aimez la cuisine de rue, si vous adorez comme moi les food trucks, eh bien, certainement, vous connaissez le premier food truck, le food truck des food trucks, le Grumman 78. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Gaël Serre, justement, de ce magnifique food truck. L'as-tu dit assez souvent, food truck?
Oui.
Ah, écoute, comment ça va?
Ça va bien.
Merci d'être avec nous. Je voulais qu'on se jase pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est mon coup de cœur. Vous existez maintenant depuis presque 9 ans. Vous avez tellement une belle histoire parce que, contrairement à bien des camions de cuisine de rue, votre genèse à vous, c'est vous démarrez un camion et vous devenez un restaurant.
Eh oui, exactement. En fait, on a bâti le camion pendant l'automne 2010. Mm-hmm. Puis après ça, à Noël, on s'est trouvé notre vieux garage et c'est là-dedans qu'on a construit notre cuisine de production parce que ça prend quand même une cuisine de production. Hein. C'est important parce qu'il faut transformer les produits. Un camion, c'est trop petit.
Oui.
Et puis, la cuisine de production, moi, je voulais même pas de restaurant. Je voulais juste avoir une belle place pour faire des parties. Puis finalement, au bout de 2 ans et demi, on s'est rendu compte que c'est pas si payant que ça, la cuisine de rue. Alors, on avait déjà un permis de restaurant dedans, ouais. Donc on l'a avec un permis d'alcool, etc. Donc là, on a ouvert la salle à manger, à mon grand désespoir. Mais finalement, ça donne quelque chose de vraiment le fun parce qu'on a un beau resto à Saint-Henri qui a une terrasse en plus cette Absolument. Année. Pour la première fois, ça aurait pris 7 ans à avoir notre terrasse. Ça a été long, mais on a réussi.
C'est vraiment particulier parce que tu nous en parlais hors d'onde. Vous étiez comme les premiers dans le quartier. Vous
ouais.
étiez deux, vous et le Talk Shop.
Le Talk Shop, oui.
Et là, tout d'un coup, on se ramasse avec des restaurants partout.
Ah, oh, vraiment? Puis mais ça devient un coin tellement agréable. Ouais. On se rend compte maintenant, les gens veulent habiter là. Il y a de la construction de nouveaux condos, mais aussi des vieilles maisons qui sont retapées. Fait que ça devient un endroit vraiment. Marcher sur Notre-Dame, il y a 7 ans, c'était pas mal stressant. Tout la traque de chemin de fer à côté, il y a eu des tentatives de meurtre à la machette. Puis là, maintenant, ça devient un lieu extraordinaire. Il y a le magnifique parc Georges-Étienne Cartier oui. qui est à côté, qui est super beau. Le canal de la Chine. Puis après ça, on a vu naître, c'est ça, plein de restos, mais aussi des bars vraiment cool. Là, le Loïc, un bar à vin, c'est vraiment ouais. génial. Le Riverside, qui est au bord du canal, qui est super beau aussi, tout avec une fait. Grande terrasse. Puis là, il y a de plus en plus de restos qui commencent à ouvrir après nous, parce que nous, on était les plus loin, oui. sur la rue de Courcelles. Oui. Puis là, maintenant, il y a la Elena qui vient d'ouvrir, oui. le petit bébé du Nora Gray. Puis ouais. après ça, il y a Joe Beef qui est en train de s'ouvrir son méga complexe super chouette au coin de Saint-Patrick et Monk. Fait que
tout à fait.
Il y a une vie de quartier de plus en plus hot là, qui s'en vient. Là.
Vous avez donné naissance à tout ça. C'est quand même cool.
Oui, c'était pas planifié. C'est parce ouais, que oui. nous, on avait besoin d'un garage. Hein? On voulait mettre notre food truck dans un garage.
Tout est né d'un garage.
Ouais.
Parle-moi un peu de la cuisine du resto.
En fait, on est parti avec l'idée vraiment du camion comme tel. Ouais. On a fait des twists sur la cuisine mexicaine parce que, bon, il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des sandwichs, mettons, avec du pain frais, là,
oui.
ben, le pain frais, il devient ouais. plus frais rapidement. Mais des tortillas, ça se garde pas mal plus longtemps. Fait qu'il y a des questions aussi stratégiques, financières, de décider de faire des tacos.
Oui.
Après ça, un taco, on n'est pas mexicain. On a été
non.
visiter, on en a mangé au Mexique, mais ouais. bon, on s'est cuisiné. Alors, on s'est dit, on va utiliser la tortilla comme un véhicule pour asseoir des choses dessus. Et là, on fait des trucs qui sont un peu éclatés, là, on s'entend. J'ai déjà eu des commentaires de clients mexicains qui disaient « Ouais, c'est pas comme à maison. »
Non.
Non, mais disons qu'on fait de la cuisine fusion,
oui.
puis avec des twists de toutes les choses qu'on aime. Beaucoup de produits locaux aussi. Ouais. On s'entend que les avocats, c'est pas super bon à l'année non plus. Alors, on fait pas de guacamole non. tous les jours. Mais c'est ça, beaucoup de produits locaux. Hein. L'idée, c'est de mettre ça de l'avant, puis on travaille avec des beaux fournisseurs, des beaux produits. Fait que,
Est-ce que c'est le même menu qu'on retrouve au resto que dans le camion?
Quasiment. En fait, notre camion, c'est le premier camion. Hein?
Oui,
fait
oui.
qu'il a été bâti un petit peu à l'arrache parce que, on n'avait pas beaucoup de sous, puis c'est sûr qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire avec ça. Fait que dedans, tout ce qu'on a, c'est une plancha. Puis la plancha, elle sert à cuire des tortillas. Donc, j'ai pas de friteuse.
Okay.
J'ai pas de grill. J'ai juste des tables chaudes dans lesquelles on réchauffe nos protéines qui sont transformées dans le resto. Fait qu'il y a une partie du menu qui est dans le camion, ouais. du resto dans le camion. Mais dans le restaurant, c'est beaucoup plus élaboré parce qu'on a une cuisine vraiment complète. Là.
C'est tellement un défi, un camion de cuisine de rue. Souvent, les gens le réalisent pas. Quand vous les voyez travailler, puis là, on parlait justement de la canicule qui s'en vient.
Ouais,
imaginez
ça va être,
ceux qui font de la friture.
Oui.
Ça fait 40 $.
Mais en fait, ceux qui font de la friture, surtout les nouveaux camions,
ouais.
eux autres, ils se sont fait installer l'air climatisé.
Ah oui, OK.
Souvent, oui, oui.
Okay.
En fait, si tu arrives à avoir un système de fenêtre un peu pour fermer ta fenêtre de service,
oui.
en fermant ça avec la hotte qui marche bien, il y a moyen quand même de, je sais pas, il doit faire 32 à la place de 45.
Ah, OK, 32. Oui, c'est tellement confortable.
Oui, mais il ne faut pas oublier, les cuisiniers, là, ils ont l'habitude d'avoir chaud. Hein? Et puis, c'est quand même, ça fait partie de la job là, d'être au chaud. Fait que c'est sûr que... Mais oui, la vie d'un camion, c'est en gros, pendant plein été, c'est, ça peut être dur. Ouais.
Bon, un camion...
On s'hydrate
oui,
beaucoup.
Oui, j'ai aucun doute. Bon, vous êtes les instigateurs du premier camion de cuisine de rue, mais tu es aussi l'instigatrice des premiers vendredis au stade.
Les premiers vendredis, quelle aventure!
C'est incroyable, ça! C'est plus de 50 camions au même endroit, le premier vendredi du mois...
Depuis
7 ans. Ouais. Et c'est tout un succès, là. Vous faites l'envie de, entre autres, des villes comme Québec.
Oui, puis même de Los Angeles. Parce que même là-bas, moi, j'ai eu des visiteurs de Los Angeles. Ce sont des gens qui nous ont aidés, d'ailleurs, à bâtir notre site web, qui opère... C'est l'association des associations de food truck des États-Unis. C'est une espèce de gros machin, là. Puis eux, ils sont venus nous rendre visite parce que, ils étaient intéressés à voir ce qu'on faisait. Puis quand ils sont arrivés sur le stade, ils ont fait... Oh my God!
Ah, clairement.
Ils n'en revenaient pas parce qu'on a une concentration de camions. C'est quand même 50 camions. Mettre 50 camions ensemble, c'est du stock pour 7 heures d'opération, hein, parce que c'est une journée.
Oui.
Puis l'engouement des gens, eux, ils ont été vraiment là, flabbergastés. Ils n'en revenaient pas.
Combien de gens passent un vendredi?
Un vendredi où il fait beau, là, on va avoir entre 20 et 24 000 visiteurs.
Wow! Puis, ça se fait de façon très organique. Il n'y a pas de cohue.
Non, pas du tout.
Des spectacles.
Oui, mais en même temps, il y a de la place. Oui, il y a de la musique, là, mais c'est vraiment... Le focus est vraiment sur la bouffe. Hein. Gens viennent là pour... Puis en plus, c'est le fun parce qu'il y a comme des espèces de stratégies. Les gens arrivent en groupe, puis là, ils se dispatchent. Ils font « OK, toi, tu vas à tel camion, on se rejoint dans 20 minutes à telle table. » Puis là, tout le monde mange ensemble. Ça fait des beaux potlucks.
C'est vraiment cool. Bon, là... Si vous êtes un amateur de cuisine de rue comme moi, puis vous vous posez la question, mais outre le vendredi, où sont-ils tous ces magnifiques camions en ville? Eh bien, on a la réponse pour vous.
Oui, absolument. Hein? Il y a un site web qui s'appelle cuisinederue.org. C'est le site web de l'Association des food trucks.
Oui.
Et c'est là-dessus qu'on retrouve la carte avec géolocalisation des camions. Et ça, ce que ça donne, ça permet de planifier un peu d'avance. Puis savoir où sont les camions, mais en temps réel aussi. Alors, c'est notre outil de booking. Donc, ça marche à l'interne pour nous au niveau administratif pour que les camions puissent aller réserver leur site.
Ouais.
Mais en même temps, c'est accessible au public. C'est une super bonne façon d'aller voir quel camion est dans quel coin, à quelle période. Puis on peut trouver là-dedans les horaires au complet, autant pour les emplacements que pour les camions. Donc, vous pouvez trouver votre camion préféré, savoir ce qu'il fait tout l'été là-dessus.
C'est tellement cool. On ne peut pas se quitter sans parler d'un événement majeur cet été. C'est le surprise party du groupe Man 78. Vous allez faire un surprise party pour le camion, là.
Ben, en fait, le camion, puis les gens ne savent pas tout ça, mais ce nom-là, Grumman 78, c'est l'année et le modèle du camion. C'est il a été construit en 1978. Et donc, cette année, 2018, il va avoir 40 ans. Donc, on s'est dit, tiens, on va lui faire un surprise. Et puis, donc ça a lieu le 8 juillet. On va faire ça au restaurant à Saint-Henri, évidemment. On va faire une belle fête de quartier, en fait. Et on va inviter ses petits amis, les premiers camions qui ont été construits, eux aussi, au début des années 2010. Et donc, on va avoir de la visite. On va avoir Pas de cochon dans mon salon qui va venir. Monsieur Crémeux aussi.
Oui.
La gang des Daz Truck qui vont être là. Donc, ça va être... Ah oui, puis le Winnie Burger, là. Lui, c'est notre premier... C'est son premier ami, hein?
C'est son premier ami.
Oui! On a opéré, nous, dans le Nouveau Palais, hein, qui est le restaurant affilié. Quand on n'avait pas de restaurant, on a été faire les tacos de nuit le Nouveau Palais pendant un an. Donc, il y a une filiation entre nos deux camions qui est très, très proche. C'est des vieux amis.
C'est tellement mignon. Donc, c'est le 8 juillet prochain au resto.
Au resto, oui. On ouvre les portes, on ouvre la terrasse, on fait une fête partout dans le parking. Ça va être super.
C'est vraiment cool. Gaëlle Serre, encore une fois, merci. On va se rejaser probablement cet été.
Sûrement, quelque part auprès d'un food truck, oui.
Puis on rappelle aux gens, premier vendredi du mois, à l'Esplanade, au stade. C'est là que vous retrouvez la plus grande concentration de camions de cuisine de rue. On s'en va à la pause musicale et au retour, c'est le temps de jaser de cocktails à base de cold brew. Voici venu le temps si attendu du Truc et Astuce Café. Il fait beau, il fait chaud. Voici le temps venu de jaser cocktail. Et quoi de mieux pour rafraîchir et donner un peu de pep à votre cocktail que d'en faire un avec du cold brew, c'est-à-dire du café infusé à froid. J'en ai deux pour vous aujourd'hui. Le premier étant le Floater Stout. C'est super simple à faire et c'est délicieux. Tout ce que vous avez besoin, c'est 3 boules de crème glacée à la vanille auxquelles vous allez ajouter 330 ml d'une bière foncée, une stout de préférence, 60 ml de café infusé à froid. Si vous ne vous souvenez pas de la recette, on en a jasé la semaine dernière. Et vous agrémentez de 15 ml de sirop simple au café infusé à froid. Ça, c'est super facile à faire. Dans le fond, vous allez prendre une partie de café infusé à froid, du cold brew, et une partie de sucre. Vous allez porter tout ça à ébullition. Et après, vous laissez reposer. Et une fois que ça a reposé, bien, vous avez un merveilleux sirop simple de café infusé à froid. Si vous voulez être un peu plus aventureux, je vous conseille le Old Fashioned, donc 60 ml de whisky, 30 ml de café infusé à froid, 15 ml de sirop simple au café, cold brew et le tour est joué avec quelques glaçons et une belle rondelle d'oignon. Une belle rondelle d'orange comme garniture. Ouais, il est clairement le temps que ça finisse. Je vous souhaite vraiment une super fin de semaine. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Merci à Gaël Serre, à Sylvain Cossette et à toi, Philippe, à la mise en onde. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode de Un autre café.